Emmanuelle Fructus, collectionneuse qui interroge la photographie et les archives, parle de Ready-Made Belong to Everyone de Philippe Thomas.
Plutôt que d'évoquer ici une œuvre que j'aurais pu voir, j'ai choisi de parler d'une installation dont je n'ai jamais pu faire l'expérience physiquement. Elle fait partie de la collection du MAMCO à Genève et je n'ai donc pu en prendre connaissance qu'à travers une série de reproductions. Il s'agit d'une création de l'artiste Philippe Thomas, qui a d'abord été présentée en 1987 à New York sous le titre « Ready-Mades Belong to Everyone », puis l'année suivante à la galerie Claire Buru à Paris, sous le nom « Les Ready-Mades appartiennent à tout le monde ». Pourquoi avoir choisi de parler de cette installation? Parce qu'à travers le travail conceptuel de cet artiste, son apparente sévérité et sa radicalité, c'est au contraire son immense sensibilité qui me percute. Sentiment étrange, me direz-vous, face à son dispositif. Philippe Thomas reproduit en effet l'aménagement d'une agence de communication composée d'une armoire, d'une table, de carton, d'une chaise, d'une plante verte, de dossiers et de différents supports publicitaires comme des cartes de visite ou des affiches. C'est grâce à la création de cette agence que Philippe Thomas rend visible un axe important de ses recherches, la mise à l'épreuve du concept d'autoréalité, question qu'il expérimente dès la fin des années 1970. Philippe Thomas interroge le dispositif même de médiation de l'art et propose aux clients de son agence de les faire entrer dans l'histoire de l'art. Il organise l'effacement de son propre nom d'artiste, à partir de 1985, à travers le principe suivant. Lorsqu'un collectionneur acquiert l'une de ses pièces, il en devient, en toute logique, son propriétaire, mais surtout son auteur. Empruntée à la fiction, cette dépropriation volontaire incarne la disparition. Ne pourrions-nous pas effectuer un parallèle avec la figure du collectionneur, et plus particulièrement le collectionneur de photographies amateurs et anonymes, la photographie dite vernaculaire? Toutes les images que ces personnes collectent proviennent en général de marchés au vieux papier, de brocantes ou de sites marchands. Le collectionneur accumule des images souvent isolées d'auteurs et d'autrices non identifiés. Il concentre son attention sur l'image elle-même. Dès lors, la production d'images hétéroclites s'articule sous le regard du collectionneur, tel un directeur artistique, qui transmet une vision et fait advenir de la singularité à travers des écritures multiples. Comme Philippe Thomas qui labellise son œuvre par le nom du collectionneur qui l'acquiert, il s'opère un phénomène similaire lorsque certains collectionneurs se définissent comme artistes et envisagent leur propre identité comme une véritable marque de propriété. C'est à cet endroit précis que le travail de Philippe Thomas nous invite à réfléchir sur la réappropriation des photographies dites vernaculaires, en interrogeant avec justesse l'un des paradigmes fondamentaux de l'histoire de l'art, à savoir la fabrication d'un artiste et le commerce de sa signature. L'œuvre de Philippe Thomas saisit de façon quasi prémonitoire les enjeux symboliques, voire capitalistes, d'un fait nouveau dans l'histoire de la photographie, le déplacement de la figure du collectionneur détenteur de moyens financiers vers le statut d'artiste. La question qui m'intéresse est la suivante. Comment l'institution parvient-elle à légitimer ce passage et ce changement de posture? Selon moi, un double phénomène s'opère conjointement. En premier lieu, ces collectionneurs sélectionnent des documents, mais pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit soit d'images banales ou de petits chefs-d'œuvre involontaires, coupés de leur mémoire et de leur contexte originel. Leurs auteurs sont donc par la force des choses devenus invisibles. Ensuite, ces collectionneurs de photographies amateurs et anonymes ne se définissent plus comme les auteurs d'une collection, mais bien comme des artistes par leur choix iconographique et la monstration des archives collectées par leurs soins. Pour le dire très vite, cette posture me paraît d'abord servir la mystification de leur propre collection en occultant la véritable place de ces images dans le champ de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie et de l'histoire des sensibilités. Elle détourne le sens même de ces photographies produites dans la sphère privée ou conçues à des fins utilitaires, voire commerciales. Il me semble que des erreurs de lecture se produisent. Lorsque les corpus constitués se limitent le plus souvent à un jeu de formes ou de thématiques, alors que les enjeux théoriques se situent bien ailleurs. Avons-nous suffisamment mesuré que la photographie de famille n'était en réalité qu'un prétexte visuel pour énoncer des modes de vie et des sensibilités qui jalonnent l'histoire ? Ne faudrait-il pas aller au-delà de l'image fixe qui sème la confusion ? Pourquoi vouloir autant réduire ces images à leur simple matérialité ? N'est-ce pas une manière de détourner notre regard sur leurs véritables intentions mémorielles et symboliques ? L'œuvre de Philippe Thomas me renverse, car elle est constamment autoréflexive et autoréférentielle. Elle nous aide à penser l'importance de la figure de l'artiste et de l'appareil de production permettant de le faire exister dans le champ de l'art. Dès lors, comment justifier le remplacement de l'auteur non identifié par celui du collectionneur qui se transforme en artiste ? La photographie amateur et anonyme permet d'interroger l'histoire et l'histoire de l'art. Elle brouille les pistes sans cesse et c'est bien là toute sa spécificité, son immense richesse. Les collectionneurs ont su saisir la brèche laissée par ce vide d'auteur pour opérer ce transfert et faire usage de ces documents dans le champ de l'art. Comme dans l'œuvre de Philippe Thomas, les ready-made appartiennent à tout le monde, cette photographie dite vernaculaire interroge la figure cachée de l'auteur. Pour conclure, je dirais que cette œuvre me touche profondément, car malgré sa radicalité, elle interroge le singulier et le pluriel. Elle m'aide à faire face à la production d'images privées et à l'invention de formes communes en opérant un décentrement de l'individualisme. En présence de ces photographies amateurs et anonymes, c'est du collectif dont il s'agit. Se concentrer sur la figure du « je » me semble être une erreur de lecture. La place vacante laissée par le photographe opérateur favorise une plénitude de posture et de récits fictifs. Mais pour finir, c'est bien la photographie elle-même qui nous porte et l'emporte.